Invitez à vous rapprocher. On va commencer la seconde lecture. Et je vais juste dire un petit mot pour présenter Antoine. Alors, Antoine Wauters nous arrive de Bruxelles. Il est philosophe de formation. Il a écrit plusieurs recueils de poèmes, publiés principalement chez Chêne Éditeur, qui ont été primés et remarqués. Il dirige par ailleurs la collection IF aux éditions de l'Arbre à Parole et la collection Grise chez Chêne. Il est également scénariste pour le cinéma et son premier long métrage Préjudice sortira en salle en fin d'année avec dans les rôles principaux Nathalie Baye, Arnaud et Eric Caravaca. Alors, en discutant, il me disait hier que ce qui le passionne réellement en littérature, ce sont ses textes hybrides, aux frontières de la poésie et de la narration, quand ces deux formes s'entremêlent, que l'un tend vers l'autre et que le rythme de la langue porte le récit. Et c'est exactement cette forme-là que l'on retrouve dans les livres d'Antoine Wauters, de Césarine de Nuit à Sylvia et dans le tout dernier paru Nos Mères chez Verdier. Et je trouve que c'est ce qui fait la force de ces ouvrages inclassables, mais essentiels. Et du coup, ce sont des ouvrages qui nous accompagnent longtemps parce qu'ils touchent avec justesse à l'essentiel. Voilà. Antoine Wauters.
Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis sponsorisé par l'EF, étant belge. Et merci Gwenola pour tout ce que tu as dit. Je vais essayer quand même de trouver mes livres. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les derniers textes que j'ai publiés, effectivement, on est toujours à la croisée des genres, entre des textes qui sont musicaux dans l'écriture, rythmiques, rythmés, et en même temps, à chaque fois, ce sont des récits. Celui que je vais vous lire pour commencer, qui s'appelle Nos Mères et qui est paru il y a un an, chez Verdier donc, a été défendu comme un roman. Pour moi, ça reste toujours cette espèce de mélange hybride entre poésie et prose. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Enfant, quand je faisais référence à toi dans les histoires que j'inventais pour me tenir compagnie, je ne disais jamais « maman » ni « ma mère », mais bien plutôt « nos mères », comme si j'étais plusieurs enfants et toi plusieurs mères à la fois. Et comme si tout ce que je souhaitais, finalement, c'était ça, diluer nos souffrances en fragmentant nos vies. Elle nous demande où nous vivons. Tout haut, nous ne répondons rien. Tout bas, nous répondons dans le plus grand et le plus beau lieu, entouré de biefs, d'osselets, de cascades d'eau chaude et de fines pluies qui ne souillent pas, sur une terre blanche, dans un village de petite taille et de petites montagnes que nous n'allons jamais quitter, dit-on. Nous demeurons. Nous disons nous mordons et nous mordons, aveugles, nos pieds nus caressés par les crocs de bêtes noires, des araignées peut-être. Il y en a tant dans la région. Ou des cafards. Ils escaladent sur nous. Nous portons des pelisses, des gilets de fine laine, mais le plus souvent, nous allons nus. Après journée, elles viennent nous chercher derrière les plantations de bananiers, d'orangers et de manguiers, où nous vivons dans une abondance verte. Nous mentons. Nos mères nous fixent durement. Elles n'ont encore rien dit mais préparent des sermons, l'air mauvais et une verge à la main dont elles vont déchirer nos peaux, c'est sûr, afin de nous rendre moins fragiles garçons. Elles nous aiment, c'est évident. Simplement, elles ne supportent plus grand-chose depuis qu'elles sont seules avec nous. Pieds nus, sur la terrasse, face à la Méditerranée, elles racontent l'épisode de la mort de l'homme de leur vie, mais entre leurs dents, tout bas, toujours entre leurs dents. Mort dans la boue des poussières d'obus, disent-elles, et mort dans la poussière des tirs de Kalachnikov des milices adverses, répétons-nous, entre nos dents aussi, tout bas, tâchant de ne pas les affoler. Elle voudrait que ce soit ça et rien d'autre. Elle et nous, elle avec nous et nous pour elle. Elles tentent alors de nous capturer, des boucles terminant leurs mains, de nous garder, de nous couver si fort souvent et de nous punir de ce que nous sommes d'affreux gamins et galopins. Elles nous enferment, pas, et sur nous rabattent les attaches de leurs colliers de perles et de leurs ceintures et de leurs chaussures et de leurs deuils et de tas d'autres choses encore. Mais nous regardons ailleurs et nous n'en parlons plus. Nous ne regardons pas la pièce où nous sommes enfermés, non. Nous regardons le soleil et la pluie, le soleil dans la pluie parfois, fixant attentivement les plantations d'arbres fruitiers et les systèmes souvent fort compliqués d'irrigation. Elles nous étouffent quand elles nous parlent. Des paroles doucement agréables, des chants qu'elles font venir par les falaises et rouler et enfler jusqu'à nous. Elles crient, leurs enfants. Elles osent poster leur corps sur la terrasse grise de la maison jaune. Mon enfant, mon amour, elles osent crier. Ma brebis, ma poule d'eau, mon amour. Elles ont sur la terrasse des larmes fraîches sous leurs pieds nus. Mon amour, mon enfant. Elles font état de leur tristesse, de leur folie, tout ça qu'elles crachent. Mon enfant, mon amour, ma brebis, tout ça qu'elles font rouler à notre endroit, sur nous, tout ça qu'elles crachent jusqu'à nous, brûlant nos cœurs. Elles passent, elles et leurs robes, sur le blanc et le noir, des carreaux, du plateau, de la terrasse, des mots en bouche, chaque fois les mêmes mots. Ils montent et viennent à nous, du bas de leur détresse, du début de la folie, ils nous rejoignent. Voilà comme font ces femmes. Elles nous jettent des sorts, nous piègent avec des appâts, l'odeur du sésame en nougat et des noisettes au sucre, dont on raffole, celle de l'huile d'arachide et de la fleur d'oranger qu'elles versent délicatement dans le verre à thé de grand-père. Elles cuisinent pour nous. Et pour grand-père seulement, jamais pour elles qui ne sont rien, disent-elles, ou sont des femmes brisées, que rien, ni personne, ne consolera jamais, pas même nous. Au vrai, elles ne cuisinent ni pour nous, ni pour grand-père, ni pour lui qui ne mange plus rien depuis qu'il est malade et alité dans sa chambre au premier, ni pour nous qui passons tout notre temps cachés dans cette grotte ou ce grenier au second et dernier. Mon amour, ma poule d'eau, sans cesse, mon amour, mon cabri d'amour. Ainsi s'adresse-t-elle à nous, puis elle nous tourne le dos et pieds nus sur les carreaux blancs et noirs de la terrasse, fume de longues cigarettes très fines en chantant des airs de Marie Cayrouz. Un peu plus tard, elles ont des plans nous concernant, elles en parlent. Pas tous les jours et pas ouvertement, non, mais elles en parlent, voilà comme disent nos mères. Septembre sera bientôt là, et septembre, si je ne me trompe, est le mois où passe la camionnette ou le fourgon, Jean, où passe le petit van ou le véhicule de ramassage pour tout enfant en âge d'aller se former. Et septembre est le mois du camion, du ramassage des galopins trop seuls et tristes, comme toi. Voilà comme disent nos mères pour nous faire peur, juste derrière la porte, avant de donner un tour de clé et hop, s'engouffrer dans la chambre, avec un corps réduit à des lèvres qui ventousent. Elles nous embrassent, n'en démordent pas, mais parce qu'elles ne supportent pas de nous faire voir quel chagrin leur tenaille le cœur, elles tournent les talons et redescendent se poser sur la terrasse. Nous ne nous posons jamais, moi et mes frères, moi et mes autres nommés Mukhtar, Tariq, Pierre, Charbel et Abdel Salam, toujours sur le qui-vive, mouvant, aux aguets, prêts, au premier top, à fondre sur les moindres beautés avoisinantes. Tout haut, nous ne disons rien. Tout bas, nous respirons, n'entendant que le bruit des feuillages dévorés par la brise lentement, par le vent de la mer, et nous sourions. Nous mentons. Un peu, beaucoup, oui, sans quoi nous sommes perdus et nous sommes morts. Ainsi, improvise Charbel pour nous divertir, une pierre. Quand je peux facilement la rayer avec l'ongle, c'est certainement du talc. Mais quand je la raye, juste la raye sans plus de facilité, c'est une lame de gypse. Si en revanche je dois m'emparer d'une pièce en cuivre ou même d'un bout d'acier, alors c'est de la calcite. Mais ici, spécifie-t-il, de ce côté extrême du pays, dans cet endroit vraiment très reculé du monde, les roches ne sont que de vulgaires cailloux sans nom, on marche dessus et ta-ta-ta-ta, ils explosent. Parfois, il arrive qu'elles nous attachent à l'aide du filet de pêche de papa, les mains et tout, jurés à un poteau ou à une poutre ou à n'importe quoi, ne pouvant supporter l'idée de nous voir prendre la poudre d'escampette dans ce pays de fous où on compte au moins autant de M16 que d'habitants. mon amour, ma brebis. Ne voulant pas nous voir souffrir, ni nous montrer qu'elle souffre, elle nous retire ni plus ni moins du monde, nos mères. Elle nous coupe l'horizon. Mon amour, ma brebis, tu te tiens tout voûté, on dirait un vieillard. Redresse-toi, embrasse-moi, on dirait un maboule, vraiment, un petit autiste. Voilà, voilà comme font ces femmes toujours paradoxales, pour qui nous oublier dans ces hauteurs et nous renier, nous enfermer, sans nous nourrir, vaut beaucoup mieux que le spectacle de leur propre visage dévasté par le deuil, bouffi par la tristesse, ou que le hideux spectacle des horreurs du monde. Et nos mères se cachent pour pleurer, et nous nous cachons pour pleurer aussi, et nos mères s'inventent des visages et des airs joyeux, et de même nous nous inventons des visages et des airs joyeux. Parfois, sous les bruits de notre respiration pourtant bruyante, on les entend, on les devine, chantant presque. Tu seras ingénieur, Jean, tu quitteras ce pays, sans cesse, tu ne souffriras pas, Jean, tu seras ingénieur, tu quitteras ce pays. Par là, sans doute, elles s'imaginent nous préparer à ce qui va venir bientôt, mais qu'est-ce qui nous attend au juste? Les phrases de ces femmes-là sont incompréhensibles. Du reste, on ne pense pas toujours à elle. On ne peut pas, non, on ne peut pas toujours penser à elle comme à nos mères, sinon ce serait ça, la mort encore, simplement. Parfois, pour s'excuser de nous consigner 8 jours seuls au grenier, ou plus, ou moins, comment savoir, pendant qu'elle pleure sur la terrasse, ou qu'elle travaille, ou Dieu sait quoi, elles viennent nous voir et posent sur nous comme des baisers, d'énormes baisers maflus, joufflus, beaucoup trop gros. Ensuite de quoi, parlant de faute et de repentir, elles se maudissent dans la langue locale, puis nous font leurs excuses tête basse. Allons, viens, un petit garçon ne reste pas tout seul comme ça, et tu ne vas tout de même pas rester tout seul, n'est-ce pas? Et tu ne voudrais pas, dit Jean, d'une voiturette de chez Nisrine, la marchande de jouets? Allons, un petit tour sur leurs genoux n'est tout de même pas la fin du monde, osent-elles prétendre. Mais si, si pour mes frères, et si pour moi, si pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de la chaleur qui nous empaille vivants, et nos mères semblent ne pas le voir. Ensuite, à cause de la faiblesse de nos petits corps squelettes, qui cependant pourraient encore courir le marathon. Hier, 10 séries de pompage, 40 abdos et 20 tractions. Enfin, parce qu'on sait que cette tendresse n'est que temporaire, que bientôt, nos mères nous enverront vivre loin d'elles, dans un lieu sûr où on fera de nous des hommes, des vrais. Un certain temps plus tard, autant vous le dire de suite, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais là. Je veux dire ici, dans ce village d'Europe encore plus minuscule que le nôtre et tellement plus vieux, plus froid, si vous pouviez voir ça. Par chance, Sophie m'a prêté la cagoule de quand elle était gosse, ainsi qu'un ciré jaune fluo et des bottes aigle en caoutchouc. Des bottes, les mecs, ne riez pas. Bref. En guise de bienvenue, elle a aussi collé des stickers d'olivier sur les murs de ma chambre, de même qu'un camaïeu de bleu censé rappeler les ondulations de la mer, ou aller savoir quoi. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe ici. Parfois, tu entendras des déflagrations, mais tu ne dois pas t'en faire, Jean, surtout pas. Ce ne sont que les tirs de mine provenant de la carrière. Tu comprends? Tu saisis? Ce ne sont que de petits pans de roches qui se détachent des falaises. Blabla, blablabla. Bla, bla. Les gens de ce pays aiment beaucoup parler. C'est sûr. Mais quand ils partent avec tous leurs grands mots dans des directions inconnues, espérant me convertir aux couleurs locales, au climat pas du tout comme chez nous, aux bienfaits des sports de vitesse et à tant d'autres choses dont je ne me souviens pas, je ferme les yeux, comme on faisait pour les tirs et les bombes et ta 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 ta. Je pense à vous, Charbel, Mukhtar, Amine, Anne, Marie, Maroun, et à toi, mon amour, ma petite Luc. Si je ne le fais pas, des angoisses me viennent qui me font me gratter à sang le dessous des aisselles, la région poplitée, et je ne vous parle même pas de l'état de mes cuisses ou de mes avant-bras. Ce ne sont que les tirs de mine, Jean, rien d'autre que les tirs de mine provenant de la carrière. Et tes mollets, dis, t'as vu un peu l'état de tes mollets? Malgré les tirs, ça va, 1 toutes les 30 minutes en semaine, 2 en tout le samedi et 0 le dimanche. Tout est parfaitement calme de ce côté du monde. Les maisons, par exemple, sont droites et tiennent debout. Les gens aussi, les animaux aussi, et rien, pas même Dieu en personne, n'a les 4 fers en l'air et ne se retrouve comme ça, séché comme du caramel fondu au soleil, en plein milieu des rues, à plat, toute traviole et complètement ruinée comme c'était le cas chez nous. Pas du tout. Ici, il n'y a que des champs, à perte de vue, et des vaches dans ses champs, à l'infini. C'est drôle, quand je les observe depuis ma chambre, le nez collé à la fenêtre comme je n'arrête pas de faire, les premières notes du joueur de vielle de Franz Schubert résonnent dans mon esprit toujours, tout le temps, mais je ne sais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a rien de plus triste que le joueur de vielle, à part ces vaches, justement, abandonnées de tous dans des champs aussi vastes que l'éternité. Ou peut-être parce que, dans la montagne, dans le silence, avant, grand-père fredonnait souvent cet air-là. Soit. Derrière les champs, on trouve des forêts, des bois, des marais et des marécages. Ou, si vous préférez, des bois, des marais, des marécages et des forêts. Ou alors, je ne sais plus, des marais, des forêts, des marécages et le bois monté. En tout cas, la verdure est partout, tout comme l'humidité. Et ma tête tourne de plus en plus, je vous jure. De son côté, Manuele, le mari de Sophie, prétend que ce pays est celui des chanterelles, des girolles et des cèpes de Bordeaux, excellent préparé avec une noix de beurre, dit-il, un peu d'ail et du persil frais. Mais toutes ces choses ne me valent rien pour le moment, car c'est seulement de fatouche, de mloukiyé et de ribé halib dont je rêve, et de notre excellent houmous aussi, et des kebabs que nous mangions, tout en souriant. Vous vous souvenez? Dites, les mecs, vous vous souvenez? De temps en temps, elle s'immisce dans ma chambre où je machine toutes sortes de plans d'évasion. Courir jusqu'aux carrières et sauter des falaises. Finalement, c'est encore ça le plus simple. Et il se met à raconter ce qu'elle a sur la patate. Ce sont ses mots. Pardon, bonhomme, je ne savais pas que ce serait si dur. Je me disais qu'ici, tu parviendrais à oublier. Tu es si pâle. Tu es sûr que ça va? Et, décrivant une courbe de 90 degrés, elle se penche en ma direction dans le but, me dis-je, de m'embrasser. Mais je me trompe, je sais, car c'est toujours sa main qui se pose sur moi, jamais ses lèvres, et que je tende la joue n'y change rien. Les mères de ce pays sont, elles aussi, visiblement, de bien étranges créatures qui n'arrivent pas à nous aimer. C'est difficile, c'est vrai, mais on y arrivera. Tu me crois, dit Jean, qu'on va y arriver? Moi je le crois en tout cas. Bientôt, tout ira mieux. Hein oui. Puis, me tendant un bol de chocolat chaud, j'ai parfois peur de ne pas y arriver, bonhomme, de ne pas être à la hauteur. Tu comprends? Tu saisis? Des angoisses, des cauchemars. J'ai peur que ce soit trop dur. Au bord des larmes, elle ferme alors les yeux, enfile son pyjama, se couche à mes côtés et me laisse là, penaud, avec cette unique certitude en tête. Les mères comme des femmes harassées, exténuées, pleines de secrets tourments et sur la vie desquelles il faut veiller sans cesse, tout le temps, si on veut éviter les drames. Voilà la vérité. La terrible vérité, ces femmes, ou nous veillons sur elles, ou bien nous les perdons. D'autres fois, restant dans la chambre sans dire un mot, elle sort son matériel de peinture et m'invite à me lancer. Ça te fera du bien. Moi, peindre, je ne peux plus m'en passer. Tu me dessines quelque chose? Oui, je me contente de répondre. Oui, Sophie. Et de me mettre aussitôt à esquisser le ciel, les vaches des Van Marsenil et les foutues maisons du Bled, debout, droite et debout. En somme, je dessine tout ce qu'un enfant normal dessine ou dessinerait, sauf que je prends soin d'éviter les canons des M16, les tirs de fusifale, l'hémoglobine et tous ces autres menus détails pouvant trahir mon trouble. C'est tout. Tu vois, Jean, que ça soulage. En tout cas, c'est très beau. Allez, on continue. Hier, elle a dit qu'elle aimerait que je l'appelle maman. Je vous jure, elle a dit que ça l'aiderait à rentrer dans le personnage. Puis, elle a ajouté que ça n'avait rien à voir avec moi. « Sois tranquille, elle a dit, rassure-toi. » Pour finir, en dessinant de petites fleurs vraiment très belles à la pierre noire et au pastel. Comme maman n'est pas en état, que c'est le jour, je regarde le ciel aux côtés d'Alice, allongée sur le dos dans la nef d'une vieille église sans toit au fond du bois monté. Dieu n'est pas loin. Je le sens. Je peux entendre les roux d'une famille de pigeons dans l'ancienne sacristie, mieux que des berceuses de Brahms ou du Marie Cayrouze. Je peux entendre le vent se pencher dans les hautes herbes, dans les feuilles des sorbiers, des sureaux, des coquelicots qui nous entourent et s'enrouler aux tiges des pois de senteur. Qu'est-ce que c'est bon! En rythme, profondément, je respire et, pendant qu'Alice gobe mes deux petites couilles à la façon de loukoum sucré, des espèces de poèmes me traversent l'esprit, andante grazioso. Douce musique de survie qui toutes contiennent ces mots. La vie est une catastrophe magnifique. Oui, La vie est une merveille, mon amour, une catastrophe. Oui, aimons-nous, Alice, et soyons pour les autres des phares et des lumières. Voilà, les mecs, comme je parle à ma fiancée quand je suis seul avec elle. Aimons-nous, et soyons pour les autres des phares et des lumières, remparts contre la mort. Ensuite, alors que nous sommes prêts de disparaître, alors que nous brûlons, alors que tout est bien ou en passe de le devenir, ces pensées me transpercent, voilà, comme un éclair, elles escaladent en moi. 1. Quand Kafka imaginait une carte de la Terre déployée devant lui, son père, dit-il, en recouvrait toute la surface. Eh bien moi, avec les mers, je dis que c'est la même chose, sauf qu'on n'a même pas besoin d'imaginer puisqu'elles occupent réellement chaque morceau de la Terre et notre esprit, tout notre esprit, à chaque instant. Voilà la vérité sur elle, nos mères, cinquième point cardinal, axis mundi de nos vies. 2. Toutes les mères nous enferment dans un cocon, à double tour, puis elles jettent les clés. Voulant nous protéger, elles nous font vivre dans un monde stérile, à l'intérieur duquel la violence ne doit pas pénétrer, mais pénètre quand même, ça va sans dire, en transparence de leurs grands yeux toujours recrus d'horreur. Mine de rien, elles nous mettent des mots doux à la bouche pour que jamais on ne puisse venir hurler nos rages à leur visage. Et pourtant, ces geôlières, nous les aimons, les adorons, et l'amour qu'elles nous donnent n'est jamais assez grand. 3. Dieu bénisse les églises sans toi, car il est juste et bon de jouir sous les nuages et sur des fleurs de coquelicots. Et le dernier. Ça y est. Tout à l'heure, dans la nef de la vieille église du Bois Monté, j'ai placé la radiocassette de grand-père entre Alice et moi, pris à ses lèvres une grande et belle bouffée d'air frais et, ne me laissant guider que par la musique de Bach, la Passion de Saint-Jean, c'était tout ce dont j'avais besoin, j'ai commencé à murmurer ces mots, vous gommande mon esprit. Salut, au revoir Tarek, Mona, Maroun, Mukhtar, Rita. Salut à toi Cherbel, adieu mon amour, adieu Luc. Bach jouait pour nous seuls des airs toujours plus beaux. Il s'est mis à neiger. Assez de mes chimères, de mes mensonges, assez. Maintenant, vivre sans vous. Alice était scotchée à moi, me rassurant, me tenant chaud et glissant dans mon cou de minuscules baisers qui ne piquaient même pas. Moi, je vous regardais partir les uns après les autres, les garçons et les filles et les garçons. Un, une, un, une, un, un. Vous quittiez mes pensées, mon monde. Ma vie. Plus tard, mêlée aux arias de Bach qui me filaient la chair de poule, si Dieu existe, c'est ici et nulle part ailleurs, avec Bach, dans cette église, au milieu des nuages et des champs et du roux amoureux des pigeons, j'ai cru entendre la voix de nos mères, de nos petites mères d'Orient, de nos merveilleuses mères. Une toute dernière fois, oui, elle a grimpé en moi et m'a butiné le cœur. Ma brebis, ma poule d'eau, bravo. Je ne pensais pas que tu arriverais à faire ce que tu fais là, à te passer de tes amis et devenir toi-même, dur et fort comme le quartz et la topaze. Bravo. Maintenant, je fais le vœu que tu ne baisses pas les bras, que tu tiennes bon. Travaille, mon grand, écris, ne t'arrête pas. Ah ! Et aussi, n'écoute pas les conseils des mères. Toutes les mères sont au bord de la folie et ne savent pas ce qu'elles disent. Du reste, ne te culpabilise pas d'aimer Sophie. On n'a jamais assez d'une mère et toute main qui se tend est bonne à prendre. Crois-moi. Il neigeait maintenant beaucoup plus fort, le ciel était blanc, les arbres, nos mains, l'horizon, tout était blanc. Alors, serrant Alice contre mon cœur, je vous ai dit ces mots. Ils résumaient ma vie et tout ce que j'ai écrit. Tout ce que j'ai écrit sur nous est mensonge. Ce n'est pas ce qui a été entre nous, mais ce que j'aurais voulu qu'il soit. C'était mes nostalgies posées sur des branches inaccessibles. C'était ma soif tirée du puits de mes rêves. C'était des images que je traçais sur la clarté. Tout ce que j'ai écrit sur nous est mensonge. Tout est vrai de ce que j'ai écrit sur nous. Voilà. Vous avez encore des forces ? Ben, je vais enchaîner, essayer d'enchaîner avec Sylvia, donc, qui est un texte que j'ai écrit largement avant nos mères, mais les dans le monde de la poésie étant ce qu'ils sont, il est paru il y a quelques mois, je crois. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit au moment où mes grands-pères sont décédés, dans un laps de temps assez court, assez proche, et où j'apprenais que j'allais être papa pour la première fois. C'était en 2009. Et je me trouvais en résidence d'écriture, et cette espèce de conjonction, quoi, d'événements opposés, en tout cas en apparence, la vie qui s'annonçait d'un côté et puis qui partait de l'autre, tout ça m'a donné envie d'une part de relire, ou de lire, parce que je ne l'avais jamais vraiment lu complètement, l'œuvre de Sylvia Plath, et puis aussi d'essayer d'écrire ce texte qui serait un hommage à mes grands-pères. Voilà. Et je vais vous lire un extrait de la partie consacrée à Charles, qui est mort des suites de la maladie d'Alzheimer. J'avais envie d'essayer de me souvenir de quelqu'un qui, lui, ne se souvenait plus de rien, plus le temps passait. Il n'est pas super joyeux, mais il faut se dire qu'au bout du livre, il y a la naissance qui arrive, et la vie revient. Voilà. Donc, il faut que ça reste léger quand même. Venu par l'eau en 1924, par l'eau à présent tu nous quittes, Charles, en cet hiver 2009. Et au début de ta maladie, vers 2002, c'est l'eau déjà que l'on trouve, petite flaque ou lac entre tes tempes. Partout est toujours l'eau, bien avant même déjà qu'on évoque Alzheimer, fin mars 2005, et que ton histoire, que toute ta vie et ton visage lui-même en viennent à se résumer à ça, de la brume et du brouillard flottant sur toi, en toi, plus ton esprit abandonnera ton corps et son environnement et nous abandonnera. De l'histoire d'un jeune homme musclé, méchauvant, faisant de la moto sur des routes de campagne à la lisière de trois pays, de l'histoire d'un facteur de 40 ans prenant le train pour la mer du Nord l'été ou l'avion quand les finances sont bornes pour Palma de Majorque ou Benidorm, de l'histoire d'un retraité cultivant un lopin de terre précis dans un endroit précis, délimité par des cordeaux, des treillis et du repousse-limace. Ton histoire peu à peu deviendra celle d'une station assise, d'une surveillance et d'un jeu de sangle qui, en chaque point de ton corps pourtant loin de se dire vaincu, va définitivement se refermer. Ce que tu auras pourtant achevé, tu penseras ne pas l'avoir entamé, et l'entameras donc, coupé du pain. Ce que tu n'auras pas entamé encore, tu penseras l'avoir achevé déjà, et ne l'entameras pas, coupé du pain. Et ainsi, peu à peu, comme un fruit pourri ou comme une chose lentement arrive, la nuit après le jour, l'ennui, la maladie, tu oublieras tout, et tout en toi se mélangera, s'oubliera. Tout s'oubliera en toi, et ce que tu auras lu à la page des sports de ton journal, le résultat des matchs de foot, les matchs de foot eux-mêmes n'auront plus de sens ou encore moins de sens, puisqu'en fin de compte se résumant toujours à des matchs nuls, des matchs en vain. Tout match gagné pouvant tout aussi bien devenir un match perdu et inversement. Dans l'oubli, tout se vaut. Gagner ou perdre, agir ou pas, parler ou pas, et que les jours passent et que la vie continue ou non. J'aurais beau me pencher sur ton fauteuil, ta chaise roulante, ton lit enfin, sentir plus je me fais proche l'odeur de gel de tes cheveux blancs impeccablement rabattus vers l'arrière, prendre appui sur ton épaule le temps de t'embrasser, bonjour papou, te répéter, bonjour papou, rien à faire, tu ne me reconnaîtras plus. Comme si tout soudain s'était mélangé, mélasse, bouillie, gâchis, l'espace et le temps, l'ici, l'ailleurs, nos corps vivants et le corps des tiens, la plupart morts et enterrés depuis longtemps dans ton Limbourg natal. Ou, d'une voix fragile d'enfant perdu en sa propre maison, un rasoir à la main devant le miroir de la salle de bain, mais qui ne se rase pas et qui s'ignore ou même s'oublie et ne sait plus, tu me diras. As-tu vu pas, dis, as-tu vu pas? Et Jean, tu l'as vu? Oui, non, je ne saurais quoi te répondre. Ton frère Jean et ton père, Guillaume, étant morts quelques 20 années plus tôt. Pourtant, ils étaient là, ajouteras-tu, jurant qu'il n'y a pas 2 minutes, avec toi, en toi, comme frisson ou délice, ils te parlaient. Nos prénoms deviendront des entités interchangeables, réversibles à tes yeux, et nous, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, ta femme André et moi, des abstractions, des sortes d'îles flottantes ou de corps échoués à la surface ridée de ta mémoire, des traces gommées ou blanchies par le temps, de la peau flasque et molle, sans la chair, ni les os, ni les nerfs, ni toute cette épaisseur énorme de tristesse qui va grandir encore, enflée en nous à l'infini, jusqu'à la fin ou au repos. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on encore faire pour quelqu'un qui, après Zeebruges, Anvers, Knokke-le-Zoute, La Panne et d'autres villes, prétend habiter du côté de Charleroi, dans le Borinage, depuis 31 ans, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds? Quelqu'un qu'on ne peut plus laisser seul sous peine de voir la maison ravagée par les flammes, saccagée par les eaux, ou Dieu sait quel malheur encore. Quelqu'un de plus en plus déchiré entre des temps et des lieux qui ne se conjuguent plus. Ici, puis là, puis à nouveau ici, puis à nouveau plus là. Que peut-on faire pour toi? Que doit-on faire de toi? On se demande. On tardera à prononcer ces mots, te placer. On dira que ce n'est plus possible pour toi, pour nous, ni surtout pour André. On dira que c'est trop, qu'elle va finir par y laisser sa peau, et nous, à force, par ne plus du tout vivre. Alors on listera, coupable, du bout des doigts dans l'annuaire, les maisons de retraite tout en pensant mouroir. Puis, parce que tu auras fui et provoqué chez toi un début d'incendie, malheureux saucisson que tu poseras sur le feu, tout corseté encore dans sa gaine de plastique, on se décidera pour le bon temps, pour cette chambre où maintenant tu pars, tu disparais. Et tout ce qu'on te dira, ou presque, sera du vent, et qu'on te répétera de la poussière, et toutes ces photos de nous, collées au mur de la chambre du bon temps, salies ou jaunies de tout le temps passé sur elle, dans ton souvenir aussi seront jaunies, salies et même cornées. Et même cette photo de toi, Charles, qui te sert un grand verre de vin le jour de ses 60 ans, sous le regard de nous tous, même celle-là ne te dira plus rien. Comme si tout se mélangeait, bouillie, gâchis, l'espace et le temps, ce qui est mort et ce qui ne l'est pas. Comme si des bribes passées revenaient, mais gommées, blanchies par la matière cireuse du souvenir, du temps et de l'âge. Et comme si c'était ça, l'anecdotique, qui était encore le plus exact et le mieux préservé. Tintin, à la télé, que tu reconnais les yeux brillants et avec lui son chien Milou, ou les marques des produits alimentaires de ton enfance, ou le nom du cri des animaux, du dindon par exemple, il glougloute. Une maladie de Louis, Alzheimer, ou la réponse à un appel venu de loin et petit à petit captée par la pensée qui y répond en s'absentant, en décollant et en coupant par des chemins qui passent du coq à l'âne, des chemins faits de longs flashbacks et de sauts et de bonds vers le passé, vers la spérule, vers les granges et les greniers à foin, les bombes pendant la guerre et le cri des bêtes parfois trouant la nuit. Des chemins faits d'arrêts sur image aussi, et de constantes répétitions, et de constantes et infinies répétitions. Et pendant que nous pour qui le futur se limite à la seconde qui suit, à la prochaine seconde et aux prochaines poignées d'instants, emportés l'un à la suite de l'autre sans laisser de traces, comme tout ce qui est de ce monde, puis subitement le quitte et n'en est plus, que nous continuerons à vivre en nous pressant, en parlant vite, oubliant vite, nous aimant vite, tu souriras, Charles, hagard, absent, comme face à des pantins. Quand je te demanderai si tu as eu de la visite, sachant parfaitement que oui, André et Françoise passant te voir tous les jours, tu répondras « Non, je n'ai eu personne ». Et André, elle n'est pas venue, André? Non, André n'est pas venu. Et Françoise, ta belle-fille, tu ne l'as pas vue non plus? Je n'ai eu personne. Alors, je demanderai comment tu vas et ce que tu as fait depuis le matin. Et toi, tu me répondras, désabusé, on ne m'a même pas lavé. Ou alors, eh bien figure-toi que je sors juste de réunion avec mes collègues de la poste. Mais tu quitteras juste le réfectoire avec les autres vieux. Parfois, tout ce que tu ne voyais plus, ou ne reconnaissait plus et qui se cachait de toi, refera surface violemment. Et violemment, comme ton regard sur nous se posera, soudain plus vif, on aura l'impression de te retrouver comme avant, à ceci près que tu seras dans ce mouroir et que tu demanderas qu'on te ramène chez toi. Et que tu nous demanderas et nous prieras d'attendre deux petites minutes, le temps pour toi de chausser tes mocassins. Voilà, deux petites minutes, je suis prêt, j'arrive, diras-tu, crieras-tu, puis finalement hurleras-tu, car on aura refermé la porte derrière nous, coupable, honteux, et repris la route. Et tu te retrouveras à quelques kilomètres seulement de F, à la lisière de ton village, à bout de force mais toujours en vie. Et par ailleurs, une autre fois, un autre jour, tu auras versé dans le fossé après juste 300 mètres de cavale, en slip et en pantoufles. Et par ailleurs, la dernière fois, on te retrouvera couché sur le bord de la grande route, comme blessé ou en larmes, le souffle des motos contre toi, toi plus triste, plus loin de nous que jamais. Le 8 janvier au soir, avant le repos, avant le sommeil, je passerai te voir en coup de vent, Mais toi, tu me verras à peine me diriger vers toi, m'asseoir sur leur bord du lit et te prendre la main doigt après doigt, lentement, comme chapelet de chair que je voudrais humer, garder ou même plonger en moi, comme souvenir que je refuse de perdre, ou bonheur que je refuse d'offrir à l'oubli, comme tout ce qui cesse d'être nouveau en ce monde. Maintenant, 9 janvier, ton corps n'est plus qu'une immensité hors d'usage, et j'ose la traverser, ta chambre, mais, titubant, comme fantôme de chair ou vertige de moi, le regard plongé dans la cicatrice du joint de chaque carrelage sur lequel je fais halte, et je reste un instant, là, avant de poursuivre plus avant vers ce désert de cire qu'est devenu ton visage, et lentement l'embrasser. Maintenant, je dénoue nos fronts, nos peaux, et comme souffle ou délice pour moi, ou trace de toi semant et binant, ronflant et lisant ton journal, jambes jointes dans le fauteuil de coin, tes vieilles pantoufles fourrées laissant voir un bout de tes chaussettes blanches, ainsi que le fin liseré de peau, également blanc, de tes chevilles, tuant puis plumant tes poules, arrachant puis pelant tes pommes de terre, vivant et toujours souriant, Charles, je te rassemble, te retiens, que malgré ce qui part et qui est immense, ce qui reste soit incomparable. Et les 3 derniers. Maintenant, avril 2010, mes pieds dans vos chaussures vides de vous, mon torse dans vos chemises bleu ciel ou à carreaux très fins, à l'origine blanc, mais marronnasse ensuite à cause de la saleté, de la sueur, mes lèvres sur vos bols ébréchés glacés, je mesure à quel point j'ai de la chance d'être là, mon fils presque dans les bras, bientôt né, comme si votre mort n'était pas vraiment la mort, malgré que je ne vous vois plus et ne vous entende plus, malgré que je ne vous touche plus. Du visage de l'enfant qui naît, du visage de Selim dont je caresse un à un les cheveux noirs, soyeux, noyés sous le liquide amniotique, pourriture rare, exquise, précieuse, de tous les plis de ce visage qui peut-être sait, ou devine déjà, lui, venu de si loin, que tout ce qui est sous nos yeux, en vie, et va se rompre, se doit d'être chéri. Maintenant, Selim à mes côtés, j'arrête ma main qui vient d'écrire pendant tout ce temps, un an passé chez vous, à vous vouloir un peu moins mort, à exhumer ce qui peut l'être, j'arrête ma main, hop, je n'écris plus, je n'exhume plus, et tout ce temps passé avec vous, et avec toi aussi Sylvia, arquée comme petite, ou souffle, ou sœur, à présent je vais le vivre avec les miens. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute.